VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia, la présentation de cette édition de 19h30, temps universel. Nous sommes lundi 17 juillet 2017 au sommaire. On est toujours sans nouvelles des dizaines de militaires camerounais portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée. Nouvelle attaque suicide perpétrée par une femme au Nigeria, bilan 8 morts. Les autorités sénégalaises promettent de punir les responsables de la bousculade qui a fait 8 morts ce week-end lors d'un match de football.
Par rapport à ce qui est sa responsabilité, et chacun soit châtié à la mesure de ses responsabilités, de sa défaillance.
Les élections au Kenya à l'heure des fausses nouvelles véhiculées à travers Internet. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Cameroun, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 34 militaires portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée hier. Une enquête est également en cours. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Jultap.
Pour la deuxième journée consécutive, la Marine nationale camerounaise a déployé des équipes de plongée à la recherche d'éventuels rescapés du naufrage. Le navire qui transportait la logistique militaire appartenait au bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite des forces de défense camerounaises. C'est au large du village d'Ebuntia, deuxième zone pluviométrique au monde, que le Mendumba, nom de baptême du navire, a coulé totalement. Le navire était en partance pour Bakassi, une presqu'île camerounaise frontalière au Nigeria, où les éléments du bataillon d'intervention rapide mènent des opérations civiles et militaires. Le commandant en second de cette unité d'élite était à bord du navire et reste porté disparu, tout comme 33 autres militaires de la même unité. Dans un communiqué rendu public par Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense, la thèse de la brusque agitation de la mer, dimanche à 6h, est privilégiée comme cause principale du naufrage. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Au Tchad, l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence, Laouken Kourayo Médar, a été conduit à la maison d'arrêt après avoir été déféré ce lundi. Son arrestation jeudi passé est intervenue quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux de la ville de Moundou pour mauvaise gestion. Selon Jnia Moulissa, adjoint maître Boniface Mwandil Madji, avocat de Laouken Médar.
Il a été déféré devant le parquet d'instance. Une information a été ouverte, c'est-à-dire le dossier est transmis au juge d'instruction et il est placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison d'arrêt.
Le procureur n'avait pas ordonné sa détention, mais plutôt qu'on l'écoute. Alors comment expliquer son arrestation?
Dès le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu accès à lui. C'est aujourd'hui seulement que j'ai pu l'assister. Donc la pièce même, là, comme c'est un dossier devant le juge d'instruction, c'est demain qu'on va photocopier cette pièce. Donc je n'ai pas eu à regarder toutes les pièces.
Comment se fait-il que vous, son avocat, vous n'avez pas eu accès à votre client?
Oui, mais vous savez, on est au Tchad, hein. C'est pas comme chez vous là-bas, où l'avocat a accès à son client. Or, la loi autorise, mais c'est la police qui gère sous les ordres de qui, on ne sait pas. Il y a des ordres qui viennent du parquet, il y a des ordres qui viennent d'une autre administration, on ne sait pas qui gère la police judiciaire. Plusieurs fois, j'ai été refoulé et brutalisé par la police.
Mais vous savez pourquoi il a été arrêté?
Les greffes retenues contre lui, c'est aujourd'hui qu'on a connu, c'est détournement de biens, usage illicite des biens par les agents de l'État et complicité.
C'était maître Boniface Mwandil Madji, avocat de Laouken Médar, l'ancien maire de Moundou. En République démocratique du Congo, deux prêtres du diocèse de Beni Boutembo ont été enlevés la nuit dernière par des miliciens non encore identifiés dans l'est du pays. L'administrateur du territoire de Beni a confirmé l'enlèvement de deux prêtres de la paroisse catholique de Bunyuka et précisé que les services de défense et de sécurité tentent de les retrouver. Attentat suicide à Maïdougouri au Nigeria, une femme s'est fait exploser dans une mosquée de Maïdougouri, faisant 8 morts et une quinzaine de blessés. Ekiabadou.
La kamikaze a déclenché sa charge explosive juste avant la prière du matin vers 5h30. La mosquée était pourtant surveillée par des miliciens de la force conjointe pendant les prières et selon des témoins, la femme était poursuivie par des habitants du quartier qui la soupçonnaient de vouloir commettre un attentat. Quand elle s'est approchée de la mosquée, les miliciens ont exigé qu'elle s'arrête pour être fouillée, mais elle s'est subitement engouffrée dans l'édifice et a déclenché ses explosifs. Deux autres incidents ont été recensés à peu près au même moment en périphérie de Maïdougouri. Deux autres femmes kamikazes ont été tuées alors qu'elles essayaient de franchir les tranchées creusées pour empêcher l'intrusion de Boko Haram dans la localité de Mamati. Des riverains ont manifesté leur colère dans les rues. Les jeunes femmes et les jeunes filles sont régulièrement utilisées comme bombes humaines pour attaquer les postes de contrôle et les cibles civiles comme les mosquées, les marchés et les stations de bus.
8 soldats maliens portés disparus lors d'une attaque dans le nord-est du pays le 9 juillet dernier ont été retrouvés morts par balles. Un précédent bilan de sources militaires de l'attaque entre Gao et Menaka faisait état de 8 soldats portés disparus, dont 3 présumés morts. 3 soldats ivoiriens ont été raidés de l'armée au lendemain de troubles dans 2 camps militaires à Abidjan et Korogo, dans le nord du pays. Ces nouveaux incidents ont causé la mort de 3 militaires. Les fausses nouvelles ou fake news font partie du décor dans la campagne électorale au Kenya, à quelques jours du scrutin présidentiel de 8 août prochain. Nathalie Barche.
De nombreuses informations douteuses se déversent sur Internet au Kenya, notamment une vidéo peignant un avenir apocalyptique en cas de victoire de l'opposant Raila Odinga. Elle a été diffusée par un groupe dénommé The Real Raila, mais selon certains internautes, elle serait l'œuvre de Cambridge Analytica, une société britannique créditée d'avoir influencé les dernières campagnes électorales aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'entreprise affirme n'avoir aucun lien avec la vidéo, sans toutefois commenter sur son possible travail au Kenya. Cambridge Analytica avait déjà travaillé sur la campagne 2013 du président Uhuru Kenyatta, conçue par la société britannique BTP Advisors, pour le dépeindre comme victime d'un complot occidental visant à le juger devant la CPI. Le Kenya élit le 8 août son président, ses députés et ses gouverneurs, 10 ans après les violences électorales qui avaient fait plus de 1000 victimes et des centaines de milliers de déplacés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Doute sur la mort du chef de l'organisation État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, la présidence russe dit ne pas disposer d'informations sûres. Eric Manirakiza.
L'armée russe avait pourtant annoncé le 22 juin avoir tué Abu Bakr al-Baghdadi lors d'une frappe aérienne fin mai près de la ville de Raqqa au nord de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a soutenu la semaine dernière la revendication russe sans toutefois indiquer ni le lieu ni la date ou les circonstances de cette mort supposée. Washington est resté prudent. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, s'est gardé de confirmer ou démentir l'information. Aujourd'hui, le Kremlin a reconnu ne pas avoir d'informations sûres. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que leurs agences de renseignement sont en train de le vérifier. En novembre, au lendemain du lancement de l'offensive sur Mossoul, Abu Bakr al-Baghdadi s'était exprimé dans un enregistrement audio diffusé. Depuis, il n'a plus donné signe de vie.
Les pays de l'Union européenne se sont dotés de nouvelles règles pour pouvoir empêcher l'exportation vers la Libye de canots gonflables et moteurs hors bord utilisés par les migrants cherchant à rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Cette décision donne aux pays européens une base juridique pour empêcher l'exportation ou la fourniture de ces produits en Libye quand il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils seront utilisés par des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a annoncé le renvoi à l'automne du vote au Sénat sur le droit du sol visant à accorder la nationalité italienne aux enfants nés sur le territoire de parents étrangers. Déjà adopté par les députés, le texte a été débattu depuis un mois au Sénat, où il a suscité des débats houleux entre la gauche qui le défend et la droite qui est farouchement opposée. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a achevé son séjour en France lundi par une visite privée à la cathédrale Notre-Dame à Paris. C'était la première fois que Benjamin Netanyahu se rendait à Notre-Dame, le monument historique le plus visité d'Europe. Le premier ministre israélien a participé hier à la cérémonie organisée à Paris pour marquer le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, une rafle massive de juifs à Paris en 1942. En Inde, de graves inondations provoquées par la mousson ont fait 76 morts. Les États du Nord-Est sont les plus touchés. L'alimentation en électricité ainsi que les voies de communication ont été fortement perturbées par les intempéries. Le gouvernement fédéral a fait appel à l'armée pour les opérations d'urgence dans les zones les plus touchées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Jacques Aristide.
Les prix du cuivre ont remonté légèrement après l'incendie durant le week-end à l'usine minière de Tenke Fungurume Mining en RD Congo. Pour la compagnie, la production ne sera pas affectée de manière significative. L'entreprise, dont le contrôle a été cédé l'an dernier par le groupe américain Freeport-McMoRan à la firme chinoise China Molybdenum, a produit 215 000 tonnes de cuivre en 2016 et 16 000 tonnes de cobalt. Acacia Mining, propriété du géant minier canadien Barrick Gold, accepte à titre intérimaire de se conformer au nouveau taux de redevance imposé par la Tanzanie en attendant le règlement du différend fiscal qu'il oppose au gouvernement. Un rapport mandaté par le président tanzanien John Magufuli a conclu le mois dernier qu'Acacia Mining avait sous-évalué sa production pendant des années, s'exonérant ainsi de payer des milliards de dollars de redevances et impôts. Le rappeur américano-sénégalais Akon a annoncé ce week-end à Dakar vouloir racheter 50% des parts de la plateforme MusicBee. Lancée en février 2016 au Sénégal, MusicBee permet via un téléphone mobile ou un ordinateur de télécharger de la musique et d'écouter même sans connexion Internet. La plateforme lutte également contre le piratage et aide au développement économique des artistes, mais elle s'est notamment heurtée au montant exorbitant prélevé par les opérateurs sur les SMS.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
La Coupe d'Afrique des Nations sur l'agenda de la rencontre à Rabat de la Confédération africaine de football.
Tout à fait, selon une source interne de la CAF, la compétition africaine se verrait décalée de janvier pour être jouée entre juin et août. L'argument météo avancé pendant des décennies sous la présidence d'Issa Hayatou ne convainc pas la nouvelle équipe dirigeante. Dans le cadre de l'Afrique centrale, un calendrier modifié serait envisagé pour permettre l'organisation du tournoi. La CAN continuera en revanche de se jouer tous les deux ans. Un délai de 4 ans comme le mondial de la FIFA n'est pas envisageable d'un point de vue économique selon la CAF. Conformément à l'élargissement du nombre de participants aux Coupes du Monde de la FIFA, la CAF envisage d'augmenter le nombre de ses pays qualifiés.
La Fédération sénégalaise de football a suspendu l'Union sportive de Wakam.
Oui, c'est une mesure prononcée à titre conservatoire. Les supporters de ce club sont soupçonnés d'avoir provoqué samedi les incidents meurtriers pendant les prolongations de la finale de la Coupe de la Ligue au stade d'Emba Diop. Ce mouvement de foule a fait 8 morts et plusieurs dizaines de blessés.
Bonnes opérations pour les équipes visiteuses au premier tour des éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya.
Effectivement, et c'est le cas notamment de l'Afrique du Sud, dominatrice en déplacement du Botswana, 2-0. L'Éthiopie peut également se frotter les mains avant la manche retour après son éclatante victoire 5-1 à Djibouti. À Lomé, le Togo a été tenu en échec par le Bénin 1-1. Nette avance aussi pour la Guinée à Bissau 3-1, la Mauritanie au Libéria 2-0 et pour la Zambie qui a étrié le Swaziland 4-0 à Mbabane. Les Lions de la Teranga se sont contentés d'un match nul en Sierra Leone 0-0. À noter aussi le nul d'un but partout entre le Mali et la Gambie.
Et on termine par le basketball. On connaît déjà les poules de l'Afrobasket 2017.
Oui, le tirage au sort a été effectué ce week-end à Maurice où se tient actuellement la compétition continentale de moins de 16 ans. Le groupe A à Tunis regroupe les champions d'Afrique en titre, le Nigeria, la RD Congo, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le groupe B sera à Dakar avec l'Angola, la Centrafrique, le Maroc et l'Ouganda. Après plusieurs mois d'attente pour trouver un pays hôte du tournoi, c'est finalement le Sénégal et la Tunisie qui vont l'habiter du 8 au 16 septembre.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au Sénégal. La finale de la Coupe de la Ligue entre l'Union sportive de Wakam et le Stade de Mbour a viré au drame, avec 8 morts et plus d'une centaine de blessés. Une tragédie sans précédent dans l'histoire du football sénégalais. Le Wakam, dont les supporters sont accusés d'être à l'origine du drame, a été suspendu par la Fédération sénégalaise de football. Le reportage à Dakar de Seydina Abagay.
C'est les supporters, nous m'appelons sur nous comme supporters. Hein? C'est mon frère.
Les supporters de Wakam se sont acharnés sur nous. Mon frère est mort devant moi. Il est tombé de la tribune et le pan du mur s'est affaissé sur lui, ainsi que sur d'autres parmi nous.
Cheikh Tidiane Douy a vécu la tragédie de près. Il a échappé de peu à la mort. Étreint par l'émotion et l'amertume, il relate les événements.
Avant tout, problème de sécurité à mon frère. Nous premier mi-temps.
Il faut dire qu'il y avait un réel problème de sécurité. À la mi-temps, les supporters de Wakam sont allés près des toilettes pour s'armer de pierres, de barres de fer, entre autres projectiles. Quand notre équipe a égalisé, puis marqué un deuxième but, ils se sont déchaînés sur nous avec une violence indescriptible. Ils ont tué 8 personnes parmi nous. Où est le fair play dans toute cette histoire? Ce n'est plus du sport.
Oui, on a un espoir d'unir au Sénégal. Est-ce que l'espoir a monté le espoir?
Cette furie aveugle des supporters de Wakam aura été sans limite. Le journaliste de la radio Futur Média, Mala Junior Diagne, a assisté de près à la montée de la violence dans les tribunes.
Il s'est passé des choses regrettables, comme des supporters d'une équipe, en l'occurrence de Wakam, qui, à 15 minutes de la fin de la rencontre, sont allés se jeter comme des morts de faim sur ceux du Stade Mbour. Des actes de barbarie qui ont occasionné la fuite en avant des supporters du Stade Mbour qui se sont tous regroupés sur une partie de la tribune. Et cette partie n'a pas résisté, elle s'est affaissée et les gens sont tombés comme des sardinettes. Et les plus faibles et ceux qui étaient en bas ont été piétinés, c'est ce qui explique un peu qu'il y ait 8 morts et plus de 180 blessés.
Du côté des victimes, la tristesse et l'indignation sont grandes. Serigne Salou Sambou, président du Stade de Mbour, réclame justice.
Il y a un quelqu'un qui organise et il y a aussi un agresseur qui est l'équipe adverse, Wakam. Donc, il va falloir se tirer sa responsabilité et chacun soit châtié à la mesure de ses responsabilités, de sa défaillance. Et donc, et ça, je peux vous dire que je ne laisserai pas ces choses-là passer. Je vais me mettre, jeter corps et âme pour que je sois rendu pour nos morts.
Après cette tragédie inédite dans l'histoire du football sénégalais, les premières sanctions sont tombées. La Fédération de football a suspendu à titre conservatoire l'Union sportive de Wakam de toute activité liée au football. Dans le même temps, le président de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire et promis de sévères sanctions à l'encontre des fautifs. En attendant, le gouvernement a suspendu toutes les activités culturelles et sportives sur l'ensemble du territoire national. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Célébration ce 17 juillet de la Journée mondiale de la justice internationale, une journée qui marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale. En Côte d'Ivoire, cette Cour, censée lutter contre l'impunité dans les crimes les plus graves contre l'humanité, n'est pas perçue comme telle depuis l'ouverture du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son allié Charles Blé Goudé. Pour ses détracteurs ivoiriens, la CPI n'est qu'une juridiction à la solde de l'Occident. D'Abidjan, la correspondance de Narita Namasté.
La justice ivoirienne a connu un moment donné des failles. Soutient Soro Brahima, le tout nouveau président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, avant de proposer que cette journée soit une occasion de s'inspirer des succès de la justice internationale afin de bénéficier à nouveau de la confiance des justiciables.
Je pense que c'est une journée qui doit être mise à profit pour réfléchir sur notre système judiciaire et même notre système juridique dans son ensemble. Si aujourd'hui nous avons des Ivoiriens qui sont jugés par des juridictions dites internationales, c'est parce qu'à un moment donné on a estimé que notre justice n'était pas apte pour mener ces procédures jusqu'à leur terme. Nous devons faire en sorte d'éviter ce genre de situation à l'avenir. Donc cela suppose que nous bâtissons un système judiciaire fort en qui les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent faire confiance.
Depuis quelques années, la justice internationale est mal perçu par des Ivoiriens avec la détention de l'ancien président Laurent Gbagbo, Daniel Boni Claveri, président de l'Union républicaine pour la démocratie et très fidèle soutien de Laurent Gbagbo. La justice internationale est une juridiction aux ordres.
Ce que nous voyons 19 ans après nous permet de faire ces bilans et surtout l'internement du président Laurent Gbagbo de Blé Goudé ont fait que cette juridiction a été sous les projecteurs et nous avons maintenant connaissance de son fonctionnement et puis des acteurs qui l'animent.
Ce 17 juillet doit être une journée bilan pour toute la justice du monde, mais plus particulièrement pour la justice internationale, selon Yacouba Doumbia du mouvement ivoirien des droits de l'homme.
Une telle journée a son importance parce qu'elle devait permettre de faire un bilan des activités passées et de réfléchir sur les perspectives afin d'améliorer en fait ce qu'on appelle la justice internationale dans son ensemble, que nous avons appelé de tous nos voeux à une certaine époque.
La justice internationale réussira-t-elle un jour à bénéficier à nouveau de la confiance des Africains et singulièrement des Ivoiriens? Difficile à croire. Tant le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé aura, avec ses nombreux rebondissements, réussi à briser le mur de la confiance et de la crédibilité. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Les Congolais se sont rendus aux urnes hier pour les élections législatives et locales. Le taux d'abstention semble élevé selon plusieurs médias. L'opposition et la plateforme de la société civile des Forces unies pour la liberté et la démocratie avaient appelé au boycott. Nathalie Barge a joint le président des FULD, regroupant une soixantaine d'organisations, Joe Washington et Bina, pour qui le taux d'abstention reflète la crise politique en République du Congo.
Au Congo-Brazzaville, malheureusement, les scrutins sont connus d'avance, les résultats sont connus d'avance. Nous le savions très bien, là, du fait que le pays vit dans un climat désastreux. Nos organisations, d'abord, au préalable, ont demandé que les Congolais restent chez eux, parce que nous savions très bien que les conditions ne le permettaient pas. Il y a la guerre dans le pool, il y a des prisonniers d'opinion qui sont en prison aujourd'hui, qui ne sont pas libérés, il y a un nombre de situations qui concernent les étudiants qui n'ont pas de bourse et les retraités qui n'ont pas de pension. Donc, nous avons demandé aux populations de rester chez elles. Maintenant, notre observation est claire. Notre demande a été observée dans mesure où le pourcentage est très bas. Il y a très peu de Congolais qui sont mobilisés pour aller aux urnes.
Ceci dit, au niveau du déroulement du scrutin lui-même, est-ce que vous pensez qu'il s'est bien déroulé dans la transparence?
Non, malheureusement, il n'y a pas de transparence. Le parti au pouvoir avait des candidats dans les régions qui étaient seuls candidats. Donc, il est clair qu'il n'y a pas de transparence et ces élections ne sont pas crédibles. Nous avions appelé ça une farce électorale parce que, justement, cela ne donne pas une crédibilité aux résultats.
Donc, vous avez appelé au boycott des élections. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, que l'on se retrouve toujours dans la même situation ou c'est de toute façon la majorité qui l'emporte?
Ben, encore une fois, la majorité silencieuse ne l'emporte jamais au Congo puisque le régime de Brazzaville n'autorise pas la contradiction. Je vous rappelle, madame, que l'année dernière, les élections présidentielles n'ont pas permis à ce qu'il y ait de transparence, puisqu'il y a des leaders d'opinion qui sont en prison. Il y a des leaders de la société civile qui sont en prison. Donc, il n'y a pas de transparence dans les élections au Congo-Brazzaville. Nous avions demandé il y a quelque temps un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, mais malheureusement, cela n'est toujours pas fait. Et déplorant qu'aujourd'hui, le Congo marche à double vitesse.
Les élections se sont tenues tout de même. Il y aura des élus. Est-ce que vous pensez être gagnant ou perdant dans cette situation?
Je pense que d'abord, il faut dire que le peuple est toujours perdant. Dans la mesure où le peuple n'est pas écouté, je crois que tant qu'il n'y a pas un dialogue entre les dirigeants congolais et la société civile, le peuple ne sera jamais gagnant.
Donc, qu'est-ce que vous préconisez maintenant?
Nous allons continuer, évidemment, à exprimer notre conviction, qui était de demander un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue afin, justement, d'assainir l'évolution et l'avenir de la République. Nous n'acceptons pas qu'une République soit gérée d'une manière aussi privée, hein, il faut le dire. Les responsables publics au Congo ne considèrent pas l'opinion contraire.
Mais selon vous, le rôle de la société civile, n'est-ce pas plutôt d'inviter la population à aller voter pour faire entendre ses voix?
Mais ça dépend dans quel contexte, madame. Le contexte ne le permet pas. Le rôle de la société civile, c'est quand même de dénoncer le mal-être de la population. Nous sommes une société civile qui est pragmatique. Nous ne voulons pas faire à peu près. Nous sommes une société civile qui demandons qu'il y ait un respect de l'opinion, un respect des droits. Tant que cela n'est pas fait au Congo, nous demandons boycott. C'est tout à fait logique.
C'était Joe Washington Ebina de la société civile en République du Congo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Créée en 1998, l'ONG Entrepreneur du Monde est présente dans 5 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Togo et le Sénégal. Au Burkina Faso, l'ONG a accompagné et créé un programme de finances sociales et Nafa Nana, une entreprise sociale d'accès à l'énergie non polluante comme des kits solaires et du matériel de cuisson, une entreprise modèle aux effectifs désormais 100% burkinabé qui a reçu plusieurs prix internationaux. Pour plus de détails, Claire Morin-Jubourg a rencontré Charlotte Lesec, chargée de la recherche de fonds pour Entrepreneurs du Monde.
Nafa Nana, c'est une entreprise qui donne accès à l'énergie, surtout des équipements d'énergie solaire et des cook stoves, tout ce qui est les foyers améliorés pour justement améliorer la cuisson des femmes qui généralement utilisent des foyers traditionnels à trois pierres.
Vous pouvez me raconter un petit peu la jeunesse de cette entreprise, depuis combien de temps elle existe?
Nafa Nana est une entreprise qui a été créée par Entrepreneurs du Monde il y a déjà 2 ans. C'est une entreprise qui travaille sur la méthodologie de la micro-franchise, c'est-à-dire qu'elle va créer des réseaux de distribution dans les zones rurales et vraiment reculées, où justement les personnes n'ont pas accès à l'énergie, alors soit au solaire, soit à des équipements de cuisson. Et c'est une entreprise qui est donc sans but lucratif et qui est locale, avec une équipe locale et qui vise la pérennité. C'est-à-dire qu'Entrepreneurs du Monde va l'appuyer pendant 5, 6 ans, un peu plus, tout dépendant un petit peu du contexte local, dans toute la partie administrative, l'appui technique, le financement, la partie opérationnelle, dans l'idée qu'elle devienne autonome et qu'elle puisse appuyer les familles de manière pérenne pendant plusieurs années. Ouais.
Et alors aujourd'hui, vous venez de gagner ce prix. On en est où au Burkina? Combien de familles vous aidez?
Alors au Burkina Faso, on a déjà vendu plus de 50 000 équipements, ce qui est énorme, puisqu'on nous parle quand même de réseaux de distribution dans des zones enclavées. On a développé un crédit qui permet justement aux familles qui n'ont pas les moyens d'acheter ces équipements de pouvoir les payer sur une certaine durée. Elles reçoivent également des formations sur comment l'utilisation, des formations sur la partie protection de l'environnement, précarité énergétique.
Et au Burkina, vous travaillez également avec la société L'Occitane.
On a fait un partenariat avec eux, puisque justement, ils travaillent avec des groupes de femmes sur le karité. Mais leur problématique, c'était que ces femmes, justement, c'était des activités saisonnières. Et ils avaient besoin que ces femmes aient également un revenu pendant les périodes où il n'y a pas la production de karité. Et donc, ils sont venus vers nous pour justement appuyer les femmes pour qu'elles développent d'autres types d'activités durant ces périodes-là. Donc nous, on les forme, tout d'abord la partie du crédit, la gestion du crédit, éviter le surendettement, mais également toute la partie économique, comment gérer un business, comment faire un prix de vente, également une partie sociale de santé, d'éducation des enfants, l'égalité hommes-femmes, etc. Donc oui, c'est un partenariat qui a déjà plusieurs années, et qui a permis de travailler avec 6 groupes de femmes au Burkina Faso.
C'était Charlotte Lesec, chargée de la recherche de fonds pour Entrepreneurs du Monde.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Joubert Altaïb, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h de 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.